Ville.
Nature.
Végétal.
Architecture.
Quartier.
Paysage.
Biodiversité.
Culture. Le vivant et la ville s'allient à Jardin Jardin, aux Tuileries.
Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez sur les antennes de radio.imo et de radioterritoria.fr et bonjour à toutes et à tous qui êtes ici même dans cette salle Solferino à Jardin Jardin aux Tuileries, l'événement dédié au jardin urbain et à toutes les formes de nature en ville. C'est en effet d'ici que nous émettons aujourd'hui en public pour cette émission spéciale organisée sous l'égide de l'association Conseil international biodiversité et immobilier, le vivant et la ville, autrement dénommé le CIBI. Alors, pour être très clair avec vous toutes et tous, je signale que votre serviteur est membre fondateur de ce collectif aux côtés d'une poignée d'acteurs dont certains sont présents dans la salle. Cela dissipera toute suspicion de collusion entre les acteurs. Alors, la biodiversité urbaine. Ce terme sonne comme une insoutenable contradiction. Et pourtant, il s'impose parmi les enjeux d'une ville durable et même plus d'une ville vivable. Il y a bientôt 10 ans, en 2013 formellement, une poignée de passionnés créait l'association dont je vous parlais à l'instant, l'association CIBI, emboîtant en cela le pas à certains de leurs voisins qui avaient fondé le vivant et la ville en 2010. Entre-temps, les enjeux ont été posés, des projets se voulant exemplaires ont été érigés, de nouveaux métiers ont émergé et les bénéfices d'un meilleur accueil de la nature au cœur même des villes ont été défrichés, si je puis dire, et loués largement. Aujourd'hui, au sein de cette grande fête du jardin urbain, nous allons nous interroger autour de la valeur générée par ces espaces, autour de deux enjeux principaux. Dans une première partie, nous allons nous interroger sur ce qu'apporte la biodiversité dans la vie d'une ville et plus spécialement dans la vie d'un bâtiment et de son proche environnement. Et puis, dans une deuxième partie, nous nous demanderons quelles sont les nouvelles compétences, les vies humaines, autrement dit, qui aident à créer de nouveaux équilibres entre le vivant et la ville. Le sujet est vaste et l'on a moins d'une heure, puisque nous avons 40 minutes pour évoquer ce thème du jardin à la biodiversité, le vivant et la ville, une nouvelle filière. Avant de vous présenter nos intervenantes et nos intervenants, générique.
Ville.
Nature.
Végétal.
Architecture.
Quartier.
Paysage.
Biodiversité.
Culture. Le vivant et la ville s'allient à Jardin Jardin, aux Tuileries.
Et oui, le vivant et la ville s'allient. Nous passons du jardin à la biodiversité. Quesaco. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Marion Valeur, qui est assise à ma droite. Marion, vous êtes conseillère de la maire de Paris, en charge des sujets architecture, patrimoine, espace public, espace vert et affaires funéraires. Mais vous êtes également philosophe de l'environnement, auteur ou autrice d'artefacts naturels, au pluriel, nature, réparation, responsabilité, paru en 2016 aux éditions de L'Éclat. Et de L'Éclat, nous en aurons probablement avec vous. À ma gauche, Olivia Conil-Lacoste, vous êtes directrice développement durable et RSE de Bouygues Immobilier et vous êtes administratrice du CIBI. À la droite de Marion, Olivier Lemoine, écologue chez Elan, cofondateur et directeur scientifique et technique du CIBI, je vous le donne en mille. Et enfin, devinette, Gilles Galopin, qui est à la gauche d'Olivia, enseignant-chercheur en biologie végétale à l'Institut Agro, membre du conseil scientifique du CIBI. Vous l'aurez deviné, merci pour ce public en délire. Alors, soyons sérieux. Marion, je m'adresse d'abord à la philosophe. Vous êtes conseillère politique, mais vous êtes également, je l'ai cité, philosophe. Et dans l'ouvrage que vous avez commis, Artefacts naturels, je vous indique à nouveau cette référence, auquel nous avons d'ailleurs ensemble consacré une émission sur cette même antenne, Natures urbaines, qui aborde les relations entre la ville et la nature. En quelques mots, quels sont pour vous les enjeux de notre rapport à la nature dans les villes? Et pour être plus précis, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau à inventer, en tous les cas un nouveau rapport, pour, comme nous y invite Baptiste Morisot, un de vos confrères philosophes, pour habiter la nature?
Merci pour l'invitation. Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, ce sont les formes d'hybridité qu'on peut créer entre humain et nature, parce que je pense que les catégories qu'on a tous en tête sont obsolètes, c'est-à-dire qu'on a la catégorie de la ville minérale, la catégorie de la nature sauvage où l'être humain n'a pas trop accès. Et finalement, quand on lit des textes, quand on voit des films sur ces sujets-là, souvent on revient à ces catégories et on est un peu bloqué là-dedans. Et surtout, ça n'offre pas de solution, à mon sens, aux problèmes à la fois écologiques et de bien-être dans les villes notamment. Donc moi, je me suis intéressée dans cet ouvrage à l'exemple de la restauration écologique. Donc la restauration écologique, c'est quand on restaure, qu'on répare un espace qui a été endommagé. Moi, je me suis intéressée beaucoup aux forêts, aux étangs endommagés, ces zones où finalement la nature est abîmée et où l'être humain, du coup, est obligé de s'intéresser à l'écosystème pour recréer quelque chose, mais pas toujours à l'identique par rapport au passé, parce que de toute façon, on n'est plus exactement dans le même climat, mais essaye de retrouver un accord avec l'écosystème et de trouver une perspective de réparation. Et ce que je trouve inspirant dans tous ces exemples, c'est qu'aujourd'hui, ça nous inspire pour les villes, finalement. Moi, c'était pas du tout là-dessus que j'avais travaillé à l'époque, mais toutes les villes, beaucoup de villes, sont des espaces naturels endommagés, c'est-à-dire que les conditions de bien-être, de fraîcheur, d'accès aux espaces verts, de biodiversité, dans beaucoup de villes ne sont plus réunies. Et donc en fait, c'est une forme de restauration écologique qu'on doit inventer. C'est une forme complètement nouvelle, parce qu'il ne s'agit pas de raser des bâtiments pour faire des forêts. Il s'agit de trouver, en fait, partout où on peut, dans les interstices, des solutions qui vont créer un nouveau paysage et un nouveau cadre de vie. Et donc moi, je trouve que c'est un très beau moment pour l'architecture, pour le paysage, parce que je pense que c'est un nouveau moment pour l'histoire de l'architecture, et que ça fonctionne, ça vaut pour toutes les villes. Ça ne ressemblera pas à la même chose dans toutes les villes, mais je suis sûre qu'il y a un chemin dans toutes les villes, et y compris à Paris, donc qui est l'exemple que je connais le mieux, où finalement c'est un peu l'archétype de la ville où on dit c'est la ville minérale, comme si Paris avait toujours été minérale, alors que Paris, il y avait des marais avant, comme tout espace, ça n'a pas toujours été minéral. Donc en fait, on choisit un espace de référence historique et on dit ça doit rester pour toujours comme ça. Non, moi je pense qu'il faut trouver un chemin en respectant ce patrimoine et en se disant, voilà, en partant de ça, qu'est-ce qu'on peut végétaliser ? On peut végétaliser parfois les bâtiments, l'espace public, on peut végétaliser des cœurs d'îlots, il y a plein de possibilités en fait, et ça nous demandera... une nouvelle pensée architecturale, ça nous demandera des nouveaux modèles économiques aussi, parce que tout ça coûte cher, et ça demande, je crois, un dialogue avec tous ceux qui interviennent dans l'urbain pour pas faire ça n'importe comment, mais pour se dire, voilà, quel est ce nouveau paysage qu'on souhaite ?
Alors, ce nouveau paysage, vous avez cité l'architecture, vous citez toutes les échelles, celle de la ville, et puis aussi une échelle plus inédite, en tous les cas, depuis quelques années, qui est celle de l'îlot bâti. Olivier, vous êtes écologue depuis plus de 30 ans. Vous travaillez à concilier les projets humains et la bonne vie, pour ne pas dire le souci, j'emploie ce mot volontairement, de la faune, de la flore et de leur milieu. Vous l'avez fait à l'échelle de sites industriels, de territoires, et il y a près de 15 ans, vous confiez le développement de votre bureau d'études à Elan, filiale de Bouygues Construction, et vous vous mobilisez à 100%, en tous les cas de manière significative, pour une échelle qui était alors assez peu travaillée par les écologues, qui est celle de l'îlot bâti. Première question pour vous, Olivier. En quoi est-ce une échelle pertinente pour agir ?
Merci. Je vais replacer ça d'abord dans le contexte de la place du vivant dans les villes. Historiquement, c'est plutôt les collectivités qui ont travaillé les grands espaces de nature sous forme de parcs et jardins, d'alignements d'arbres. Et ça, vous le faites depuis très longtemps. Plus récemment, de manière un peu conceptuelle, on a posé la question aux urbanistes d'imaginer les formes urbaines, les pénétrations de nature, les grandes questions des trames vertes et bleues dans la nature. Et donc ça, c'est la question des urbanistes. Et jusqu'à présent, du côté notamment des naturalistes, on considérait que l'îlot bâti, l'immeuble, sa cour, son jardin, c'était de l'antinature. Or, il s'avère que dans les cours, il y a toujours des plantes, des petits bouts de jardin. Sur les toits, dans les murs, il y a des martinets qui viennent nicher, etc. Donc même dans l'îlot bâti, il y avait un potentiel de nature. Et ce qui est important, c'est que dans l'îlot bâti, vivent les gens, travaillent les gens, que ce soit de l'habitat traditionnel ou de l'habitat récent. Donc il y avait bien une question. Donc s'il faut préserver la biodiversité, et ça aussi, on n'oublie pas ça par des grands espaces sauvages, le lien, et moi je pense profondément que la question de la conscientisation des décideurs, des urbains, elle va passer par le bourdon qui vient butiner le romarin sur sa terrasse, par la calidoine qu'on va trouver dans sa cour d'immeuble, etc. Donc c'est finalement le quotidien de la nature de proximité qu'on travaillait. Et quand je suis arrivé dans le monde de la construction, il y a effectivement 15 ans, le constat qu'on a fait, c'est que le monde de la construction, le monde de l'immobilier, il ignorait tout du vivant. C'est un monde de maçons, c'est un monde d'ingénieurs, c'est un monde de financiers. Et donc ce qu'on a fait, et je vais peut-être passer la parole à Gessard, c'est qu'on a essayé avec le CIBI d'intéresser ce monde qui a de l'argent en plus, parce qu'autour de l'immobilier, il y a de l'argent, à cette question de la proximité de la nature avec les urbains.
Alors, vous parlez de la nature dans les interstices. Je voudrais saluer la présence de Jean-Philippe Ciblet, attaché au Muséum national d'histoire naturelle, qui est président du conseil scientifique du CIBI et qui m'a ouvert aux travaux de Paul Jauvet du Muséum, qui travaillait sur ce qu'on pourrait appeler les petites natures urbaines et qui a inventorié toute sa vie durant ces formes de nature dans la ville et en particulier à Paris. Et puis ce rapport sensible que vous citez, Olivier, ça me fait penser à cette citation du commandant Cousteau. On aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime. Donc il y a un enjeu de connexion et je me tourne maintenant vers le maître d'ouvrage, Olivia. Vous êtes une composante clé, pour ne pas dire une clé de voûte, vous, les maîtres d'ouvrage de l'association CIBI, vous en êtes la figure de proue, pour faire muter les pratiques de vos confrères et de vos consoeurs. L'un des combats de l'association, c'est ça, c'est de mobiliser celles et ceux qui ont les clés de la ville, si je puis dire, qui est une autre émission sur les antennes de Radio Immo. Pour le promoteur qui est Bouygues Immobilier, qu'est-ce que ça représente ce sujet d'intégrer la biodiversité dans sa réflexion et dans son action ?
Je pense que c'est capital pour nous aujourd'hui de réconcilier bâti et vivant. Vous l'avez dit, Marion Valeur, ça a été dit aussi. Et pour ça, ça passe par des nouveaux réflexes. En fait, ça passe par des nouveaux réflexes à intégrer à nos manières de faire au quotidien. Donc chez Bouygues Immobilier, on a pris le parti de s'engager pour la biodiversité avec des actes extrêmement concrets. Trois actions, plus spécifiquement. La première, c'est de faire passer un écologue sur tous nos projets avant les dépôts de PC, pour qu'il puisse analyser le site, voir quelle espèce faune-flore on peut favoriser sur ce site-là. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en marche chez nous, sur tous les nouveaux projets résidentiels, bureaux, chez Bouygues Immobilier. Le deuxième, c'est de faire travailler nos concepteurs sur les plans masse. Et ça, on en avait parlé déjà il y a quelques mois, c'est-à-dire on a lancé une calculette biodiversité qui fait écho au CBS que beaucoup de collectivités connaissent. Et on demande à nos concepteurs, sur chaque plan masse, d'aller travailler à augmenter les mètres carrés perméables, les mètres carrés végétalisés, que ce soit au sol, en mur, en toiture, pour justement travailler cette conciliation bâti-vivant. Et puis, la troisième action, c'est celle qu'on lance aujourd'hui officiellement à Jardin Jardin, c'est sur ces mètres carrés au sol qu'on a libérés, c'est les traiter de manière très qualitative pour en faire des mètres carrés accueil de biodiversité et d'expérience de nature. Alors comment on fait ça ? Eh ben, on crée un concept, on cadre les choses, un concept de jardin nature avec des déclinaisons comestibles, sensorielles, rafraîchissantes. Et on a développé en fait 10 principes de conception qui sont d'ailleurs reconnus par l'association des jardins de Noé comme des principes de conception favorables à la biodiversité. Et on demande à nos équipes de développer leur jardin de cette manière-là. Tout ça, ça s'appuie sur des cahiers des charges extrêmement précis, techniques, développés avec des paysagistes, des écologues. Et on forme en fait nos équipes aujourd'hui à développer ces cahiers des charges, on forme aussi leurs partenaires. Et puis quand le projet, il a vraiment quelque chose de très saillant en termes de vivant, eh ben, on va pousser aussi les équipes à aller décrocher une labellisation Biodiversity pour les meilleurs projets. Donc c'est vraiment ça qu'on veut mettre en place, des réflexes systématiques, récurrents sur nos projets, pour justement recréer cette nature de proximité en ville. On sait qu'on en a besoin, on sait que c'est bénéfique pour nos clients et que ça répond aux grands enjeux de déplétion de la biodiversité et de réchauffement climatique.
Donc on a légèrement effleuré le sujet qui fera la deuxième partie de l'émission, celui des compétences, puisqu'on parle de travailler sur le plan masse. Vous avez cité le mot biodiversity qui était utilisé dans le titre de cette émission et je voudrais qu'Olivier nous donne quelques caractéristiques de ce label pour comprendre quelle a été sa genèse et quels objectifs il poursuit avant de parler bénéfices avec Gilles.
Les labels, on le voit souvent comme une récompense client, une image produit, etc. Avant tout, les labels biodiversité, puisqu'il y en a trois, et bientôt il y en aura trois, c'est des labels qui imposent une démarche. C'est exactement la démarche que présentait Olivia, c'est-à-dire de poser une exigence du maître d'ouvrage, de mobiliser les équipes de projet sur un parti biodiversité, hein, faire avec les contraintes. On a beaucoup de place, pas beaucoup de place, on est en ville dense, etc. Il y a toujours une solution. Hein. En ville dense, on va faire du martinet. En ville, en tourisme, on va faire de l'écotourisme, enfin, etc.
On parle bien des oiseaux, hein, de martinet. Je vous laisse poursuivre.
Des oiseaux, je ne parle que des...
Je ne parle que des oiseaux.
Et puis, après, ça va être l'idée de pouvoir évaluer avec un certain nombre d'indicateurs la valeur créée, pas seulement l'évaluer pour la... montrer, l'évaluer pour que l'équipe projet elle-même sache que pour avoir de la biodiversité, enfin, par exemple pour avoir des oiseaux, il ne suffit pas de mettre des nichoirs. Il faut donner à manger à ces oiseaux. Il faut qu'il y ait un couple qui se reproduise et qui fasse des petits. Il faut qu'il y ait un succès de reproduction. Je parle à l'ornithologue de notre comité scientifique. Donc ça veut dire qu'il faut intégrer dans la réflexion des paysagistes, par exemple, cette question de la faune. On parle beaucoup de jardin, beaucoup de végétal, on parle très peu de la faune. Des insectes qui sont très importants en ville, des oiseaux, etc. Donc l'idée, c'est de travailler sur le potentiel et surtout de travailler sur la valeur d'usage, je pense qu'on va en reparler.
Absolument.
De créer une valeur d'usage pour que, et là il y a encore probablement du travail à faire avec les promoteurs, pour que dans la durée, cette qualité livrée du jardin soit appropriée par les différents utilisateurs et qu'ils soient contents d'avoir un jardin, même s'il est petit, et même ça c'est plus difficile si on est plusieurs à se le partager en ville.
Alors justement, sur la valeur, je m'adresse avec une réponse courte à Olivia. Quels sont, d'après vous, les bénéfices de cette présence de nature pour vous, les promoteurs, et aussi pour les usagers, notamment les habitants des résidences que vous avez citées tout à l'heure ?
Préférence de nature pour nous, c'est de répondre aux attentes de nos clients. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on souhaite faire, à la fois des collectivités qui veulent verdir leur ville. Et vous l'avez dit, il y a plein de manières de le faire. Ça peut être aussi dans les cœurs d'îlots. Donc, ça peut être en toiture, ça peut être sur les murs. Donc, on veut faire ça. Réponse aux attentes aussi de nos clients. Le Covid est passé par là. Il y en a 81% qui veulent des espaces extérieurs. Donc, voilà, c'est des choses qu'on veut faire. Et bien sûr, on espère que ça crée aussi une préférence à terme, puisqu'on décide de le faire de manière extrêmement systématique.
Alors, Gilles, en plus d'être docteur en biologie végétale, qui est votre spécialité, vous êtes un pionnier d'études pluridisciplinaires, on peut le dire, entre les sciences du vivant et les sciences de la santé. Vous avez notamment initié un psychologue depuis son Master 2 jusqu'à la soutenance de sa thèse, à laquelle le CIBI a contribué aux côtés de Plantécité, sur l'étude de l'impact des expériences de nature, sur la santé mentale des citadins. Pour vous, quels sont ces bienfaits sur le volet santé, sur le volet humain de la présence de nature, y compris dans les interstices ?
Bien, merci de m'inviter. Moi non plus, je ne vais pas répondre tout de suite.
C'est classique chez Monsieur Galopin.
Non, parce qu'en fait, moi je crois qu'il faut repartir longtemps en arrière. C'est qu'à un moment donné, l'humain a pensé qu'il pouvait se passer de nature. Je pense que c'est une erreur de vision à l'époque. C'est-à-dire qu'on a voulu, on s'est dit, on va vivre dans une ville très minérale et tout va bien se passer. On a simplement oublié qu'on était vivant, quoi, tout simplement. Et progressivement, on a pris conscience que finalement, c'était peut-être une erreur. Donc, on était pas à pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, on a mis un peu de végétal dans la ville pour faire beau. D'ailleurs, on appelait ça le végétal d'ornement, qui est quand même pas très... Et puis ensuite, on s'est dit, mais ça fonctionne pas, voilà. Il faudrait peut-être qu'il y ait un peu de biodiversité, quoi. Et donc, on a commencé à parler d'écosystème. Je ne vous dis pas la ruée qu'il y a eu quand on a parlé d'écosystème urbain. Enfin, les écologues en parlent mieux que moi. La ville, qui est un lieu anthropique, on parle d'un écosystème. C'est pas possible. Voilà. Donc, on a passé quand même des étapes très, très importantes. Et puis après, on a fait effectivement des îlots, hein, de biodiversité. Après, on a essayé de faire des corridors écologiques pour relier tout ça. Donc, on voit la progression de la place du végétal, de la nature dans la ville pour recréer en fait cet écosystème. Et puis après, on a parlé de tram bleue, tram verte. Voilà. Donc, je pense que c'est important de resituer ça parce qu'en fait, je pense qu'on revient à la raison. On vient simplement à la raison pour dire qu'on est vivant, on ne peut pas se passer de vivant et la nature est vivante et donc on fait partie de la nature. Donc, ça veut dire que quand on agit finalement contre la nature, on agit aussi sur nous. Que ce soit en bien ou en mal. Et des fois, j'irais même pour aller un peu plus loin, peut-être sur un plan plus philosophique, c'est que déjà se dire qu'on est capable d'agir, c'est-à-dire qu'on est capable d'agir sur nous-mêmes. Bon, ça ouvrirait un peu le débat un peu large, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Et du coup, moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que traité les choses les unes après les autres. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait amener de la biodiversité. Voilà, point, la biodiversité. Après, on s'est dit, ben non, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, on a parlé d'écosystème. Après, on a parlé de services écosystémiques. C'est-à-dire que quand on amène de la biodiversité, ben, tout n'a pas le même sens. On amène des fois de la biodiversité pour que l'écosystème urbain soit vivant, ce qui est déjà quand même chose importante. Après, cette biodiversité, des fois, elle va contribuer à de la régulation. Régulation du climat, de la qualité de l'air, de la qualité des sols. Donc là, on voit déjà une utilisation particulière de la biodiversité. Après, elle va contribuer peut-être à l'alimentation, pour faire nos logements, des logements plus écologiques, se nourrir, l'agriculture urbaine. Donc on voit que cet écosystème, donc qui est indispensable à l'origine, s'il n'y a pas des écosystèmes fonctionnels, il n'y aura pas de social système qui fonctionnera dans notre ville, mais on est en train d'affiner les choses. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, et je suis heureux de vivre cette époque, parce qu'il y a vraiment un tournant où on commence à comprendre que mettre les choses les unes après les autres, surfer dans un sens ou un autre parce que c'est la mode et une tendance, ne permet pas d'avoir quelque chose qui soit harmonieux, fonctionnel, et que l'homme retrouve vraiment sa place dans le vivant. Et derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire une ville à la fois durable, mais une ville à la fois aussi viable, parce qu'elle a été quand même créée par l'homme et pour l'homme. Donc si l'homme ne vit pas bien dedans, ça ne va pas. Donc, pour répondre un peu à ta question, c'est effectivement quand on parle de bénéfices, parce que tu parlais de bénéfices, pour qu'il y ait bénéfices, il faut qu'il y ait usage. Mmh. Et pour qu'il y ait usage, il faut pouvoir user de quelque chose qui existe. Hein, donc je crois que ces trois éléments sont importants. Donc aujourd'hui, il y a des efforts considérables qui sont faits pour dire on amène la biodiversité en ville, on l'intègre dans notre réflexion de l'évolution, de la structure de la ville, des aménagements urbains et tout ça. Et tout ça quand même in fine pour, encore une fois, que ce soit viable et durable. Alors je ne sais pas si c'est à ça que tu fais référence, mais on a travaillé sur une méthodologie là, récente, notamment financée en partie par la santé, par les agences régionales de santé, qui était de dire à l'échelle d'un quartier, alors ça rejoint un peu la notion d'îlot qu'Olivier présentait tout à l'heure, à l'échelle d'un quartier, comment on peut évaluer la présence de la nature, de la biodiversité, sur la santé des habitants. Alors, quand je dis santé, c'est au sens large. Hein. Santé, moi je mets quatre choses derrière. Hein. Je mets la sécurité, je crois que c'est le premier point. S'il n'y a pas de sécurité, on ne peut pas trop parler de santé derrière. Hein, c'est la santé physique, la santé sociale, alors sociale, avec le Covid, on en a beaucoup parlé, hein, et puis mentale. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'à l'échelle du quartier, je ne parle pas du quartier administratif, mais du quartier de vie. Donc on doit se poser la question, un habitant, il est là, comment il vit, où est-ce qu'il va faire son sport, où est-ce qu'il va chercher, où est-ce qu'il va au travail, comment il se déplace, ses loisirs, sa vie sociale. À l'échelle du quartier, comment en fait il use de ces espaces qui lui sont offerts, des espaces de nature, et s'il les use, quel impact ça peut avoir sur son bien-être, son équilibre et sa santé. Et avec cette approche-là, je m'arrête après, parce que je vois que tu t'impatientes
un petit peu.
Avec cette approche-là, en fait, ça nous réinterroge, mais pas pour dire tel espace végétalisé, il est bien, il est mal. On est obligé d'avoir une vision globale de cet espace. Hein. Alors, on en parlera tout à l'heure en termes de compétences, mais ça veut dire que bah, c'est super d'être autour de la table et d'avoir des compétences différentes, parce que demain, il faut absolument qu'on travaille ensemble. On ne va plus travailler de façon juxtaposée. On doit travailler ensemble. On ne doit plus travailler de façon pluridisciplinaire, ce qui était à une époque super tendance. Mmh. On est pluridisciplinaire. Il faut travailler maintenant de façon transdisciplinaire.
Eh bien, le mot est lâché, transdisciplinaire. Vous parlez du quartier, Gilles, de la valeur d'usage. C'est un pont que vous érigez avec Olivier Lemoine. Parce qu'au fond, il y a ce qu'on conçoit bien, ce que l'on construit, ce que l'on transforme, ce que l'on répare dans la ville, mais il y a aussi comment est-ce que tout cela vit. Et Olivier, vous défendez une expression qui vous est propre et qui tente à se diffuser, le vocable de valeur d'usage biophilique. J'aimerais que vous expliquiez ce que vous entendez par ce terme avant que nous abordions la deuxième partie et les 20 dernières minutes de notre émission sur les compétences.
Je vais sans doute faire le lien avec la deuxième partie, mais je vais parler un peu d'approche socio-économique. Et le thème de notre intervention, c'est la notion de filière. Je vais y venir à la valeur d'usage. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une filière? Une filière, c'est un ensemble d'activités complémentaires qui concourent d'amont en aval à la réalisation d'un produit fini. On connaît la filière automobile, etc. Nous revendiquons l'idée que nous portons une filière dont le produit fini, et ce que tu évoquais, la qualité d'espace ou de micro-espace écologique urbain pour notamment leur usage. Donc ça, c'est la filière. Et aussi bi, vous voyez un peu l'exposition, les photos qui sont ici le montrent bien, c'est l'idée que depuis les investisseurs, on parle de la taxonomie européenne, je ne vais pas rentrer, en passant par les maîtres d'ouvrage, les architectes, les promoteurs, les paysagistes, mais aussi les jardiniers, etc., etc. On a cette filière. Le problème, c'est que cette filière, où est la ressource économique pour la financer? Et là, je réponds à ta question, la valeur d'usage biophilique, c'est une création de valeur qu'il faut qu'on arrive à créer dans tous nos métiers, métiers de la ville, métiers, etc., pour que, en gros, on puisse se payer un jardinier. On ne fait plus dans les villes aujourd'hui, parce que les jardiniers compétents qui connaissent... Il faut qu'on puisse se payer, grâce à cette valeur d'usage biophilique, dans les cours d'immeubles, je caricature pour simplifier, des jardiniers médiateurs culturels qui connaissent la flore et les oiseaux et qui créeront ce service. Et la valeur d'usage biophilique, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est que la biophilie, hein. La biophilie, c'est le désir que les humains ont naturellement d'être dans la nature. Donc la valeur d'usage biophilique que les promoteurs vont pouvoir éventuellement dégager servira à payer tous ces métiers. Donc là, on a une approche économique du système. Et en tout cas, au CIBI, on défend par le biais des labels la création de cette valeur d'usage biophilique.
Alors juste avant de laisser la parole à Gilles, qui voulait faire une réaction très courte, évidemment, comme toujours, vous signalez qu'à Jardin Jardin aux Tuileries, et pour celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent en différé, eh bien, il y aura beaucoup de photos sur les internets de cette exposition. Et les femmes et les hommes qui constituent un échantillon de cette filière sont représentés. Il y a des portraits avec leurs fonctions. Et puis, il y a aussi des exemples de réalisations, de projets qui sont sortis de terre et qui sont en phase vie du bâtiment et de son proche environnement, qui vous sont présentés sous la forme de photos, tout simplement. Gilles, vous vouliez réagir brièvement à ce qu'a dit Olivier?
Non, je voulais réagir parce que je crois que tu aimes bien les débats.
Absolument.
Donc, non, je suis tout à fait d'accord avec toi, Olivier. Il faut réintégrer les jardiniers. Mais j'ai envie d'aller encore un pas au-dessus. Je ne suis pas sûr que maintenant ce sont des jardiniers. Il faut peut-être que ce soit des médiateurs de nature ou des médiateurs végétaux, des médiateurs en végétal, c'est-à-dire des gens qui vont accompagner les habitants à réapprendre à faire du jardin, à entretenir leurs espaces, à dynamiser la biodiversité qui les entoure. Voilà. Donc voilà, j'irai peut-être un peu plus loin, je suis d'accord avec toi, mais j'irai un peu plus loin parce qu'en fait, on est acteur, on doit être acteur, on ne doit plus être consommateur. Quand on parle de valeur, effectivement, c'est une valeur qui quelque part se commercialise entre guillemets. Mais je crois qu'on doit être consommateur, acteur, et donc il faut revenir à cette valeur de jardin. Et là, je ne développe pas, rassure-toi, mais là justement, c'est quand on est aussi acteur qu'on a les meilleurs bénéfices de cette relation à la nature sur notre santé. Mmh. Il ne suffit pas d'être consommateur.
Spectateur ou consommateur. Alors, c'est une question qui résonne avec un sujet qui est éminemment compliqué à mettre en œuvre. Dans l'extension du domaine de la lutte de la biodiversité urbaine, c'est le participatif. Vous, Marion, côté collectivité, comment est-ce que vous voyez justement cette évolution des compétences attendues, que ce soit par les agents des régies, mais aussi que ce soit dans les îlots pour lesquels vous mettez en compétition un certain nombre d'opérateurs à l'échelle de ces cours dont parlait Olivier tout à l'heure?
Ben, je pense qu'on est tous dans un moment de transition où on doit trouver des nouveaux modes d'interaction avec le public, des nouveaux modèles économiques. Et nous, ce qu'on voit, c'est que clairement, il y a un fort appétit du public pour contribuer à la végétalisation de la ville. Il n'y a pas forcément les compétences derrière, hein, je rejoins ce qui a été dit. Donc, il y a un travail énorme. Donc, il y a l'expérience à Paris des permis de végétaliser. Donc, ce sont des permis qu'on a donnés à des citoyens pour qu'ils puissent végétaliser un pied d'arbre, un espace devant chez eux ou devant un commerce. Le retour d'expérience qu'on a là-dessus, c'est que clairement, ça marche beaucoup mieux quand on a quand même des petites associations qui sont constituées. Parce que quand on a un individu qui, ensuite, part 2 mois en vacances l'été, autant vous dire qu'il y a des trous dans la raquette. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que déjà, on essaye de former plus au début et de faire un meilleur suivi. Donc nous-mêmes, on a beaucoup appris parce qu'on a une culture aussi en France d'une séparation très nette, c'est-à-dire que les citoyens attendent de la collectivité qu'elle s'occupe seule de l'espace public et ils disent voilà, débrouillez-vous pour que ça soit propre et beau, mais ils n'ont pas forcément le réflexe de contribuer à ça. Et donc là, on doit changer cette culture pour se dire bon, bah, tout le monde est responsable de ça. Et donc voilà, parce que ça transforme le paysage parisien, donc on dépend aussi de ces citoyens qui prennent l'initiative. Donc voilà, il y a le participatif, et puis après il y a effectivement l'extension du végétal qui pose des grosses questions de financement d'abord en termes d'infrastructure et ensuite de gestion. parce que on a dit qu'on allait notamment transformer énormément de places de stationnement dans Paris, et on le fait déjà surtout pour végétaliser. C'est énormément de mètres carrés. Aujourd'hui, on n'a pas les effectifs, si vous voulez, pour gérer tout ça. Et ça coûte extrêmement cher. Donc on regarde des nouveaux modèles aussi pour que bah, quand il y a un grand projet privé, il puisse financer de l'espace public devant. Quand on a un nouveau bâtiment, on sait la valeur du foncier à Paris, que ça puisse contribuer à de la végétalisation sur l'espace public. Et ensuite, sur la gestion, on doit encore, je crois, trouver des nouveaux modèles. Même pour nos cours d'école qu'on a végétalisés, ça nous pose plein de questions. Qui entretient l'été ? Est-ce que c'est le personnel de l'école ? Est-ce que c'est le personnel des espaces verts ? Enfin, je vous passe les détails. Mais voilà, ce sont des nouveaux modes de gestion. Et donc, je trouve que c'est une période intéressante et qui va donner lieu, c'est certain, à des changements de modèles.
Alors justement, Olivia, c'est quoi ? C'est pour vous le promoteur. Alors, vous donnez une impulsion pour qu'ensuite d'autres, par la suite, prennent le relais. C'est une position un peu délicate. Vous êtes prescripteur, quelque part, de la vie des futurs îlots que vous constituez. C'est quoi ? C'est le retour du concierge qui met un tablier et un chapeau de jardinier ? Je le pose de manière un peu provocante. Pour vous, quelles sont les compétences attendues dans la vie de ce que vous livrez et que vous laissez à d'autres ?
Alors, c'est la question qui est posée là. C'est vraiment la vie après la livraison. Les compétences qu'on va aujourd'hui mobiliser chez nous, et c'est pas pour rien qu'on est à Jardin, hein, on est ici entouré d'aficionados et d'experts du paysage, c'est les compétences déjà de la conception. C'est-à-dire qu'on va concevoir avec des écologues, avec des paysagistes, on va sensibiliser nos équipes pour donner cette impulsion, et ça déjà, c'est pas rien du tout, hein. Je veux dire, c'est quand même une grosse étape qu'on ait des partenariats de longue durée avec des écologues, des paysagistes qui vont nous permettre de concevoir positivement. Après, il faut qu'on anticipe sur la suite, complètement, alors que nous, promoteurs immobiliers, quand même, on rend les clés et on s'en va, donc c'est pas simple. Ce qu'on fait aussi ici, dans notre jardin démonstrateur, c'est que c'est un lab. Il y a des designers qui viennent observer les perceptions des utilisateurs. Donc, ils sont là pour voir comment réagissent les utilisateurs, comment on peut renforcer, en fait, tout ce qu'on va mettre en place dans le jardin ultérieurement pour leur donner envie de contribuer, leur donner envie de participer. Et donc, ça, c'est aussi des compétences qu'on met en place avec nous. C'est celle du designer qui va se projeter dans le temps. Et puis ensuite, évidemment, au moment où on livre, on se dit, mais comment on passe le flambeau, quoi ? Comment on fait pour que ce soit pris en charge ? Alors là, par exemple, nos jardins, ils sont reconnu Jardin de Noé. Jardin de Noé, c'est une association qui travaille aussi beaucoup sur l'exploitation. Donc, nos résidences deviennent partenaires de ce réseau Jardin de Noé. Et donc, elles auront accès à un certain nombre d'informations, etc. Et puis, notamment quand on va mettre en place des déclinaisons comestibles, par exemple, sur nos jardins, des potagers, des choses qui nécessitent beaucoup d'exploitation, on s'entoure aussi d'associations qui vont essayer d'impulser dans la gouvernance, en fait, des copropriétés et des résidences une vraie envie de faire ensemble. Je donne un exemple, Nanterre-Cœur Université, on livre un projet, il y a un jardin comestible sur le toit, on finance pendant 2 ans des associations, et aujourd'hui, bah, il y a une assemblée jardinière qui s'est créée avec les copropriétaires pour continuer à faire vivre le jardin. Donc voilà, nous, on est dans cette capacité-là. Évidemment qu'on se pose la question de ces jardiniers, ces écologues qui nous ont aidés à concevoir, à réaliser, comment derrière on peut créer quelque chose. Il faudra peut-être innover sur les modèles économiques, sur les manières de faire, pour que finalement ça perdure dans le temps, même si bah, nous, on a rendu les clés.
Alors,
quelque chose qui est en réflexion.
Justement, avant-dernière question, puisque nous arrivons bientôt au terme de ces échanges, on aimerait les poursuivre pendant des heures. Uzbek Erika, le magazine qui explore le futur, titrait en janvier 2022 « Bienvenue dans l'ère de la maintenance », en remettant en question l'innovation, extrêmement consommatrice de matériaux, d'investissements financiers, pour des choses qui finalement peuvent être relativement fugaces parce qu'elles ne sont pas suivies d'une exploitation, d'une maintenance, d'une gestion et d'une animation dans le temps. On est bien là au cœur du sujet pour le vivant, puisque c'est un délicat équilibre entre des écosystèmes et l'être humain qui fait partie, comme nous l'a rappelé Gilles, de ce vivant. Et Uzbek Erika nous parle de l'invisibilisation qu'il y a eu des métiers de la maintenance. La propreté de ce desk n'est pas le fruit d'une prestation de nettoyage, mais est bien issue du travail de femmes et d'hommes qui l'ont astiqué et qui maintiennent l'ensemble des espaces propres, les gilets jaunes de Paris et les gilets verts qui nettoient les rues. Et c'est la même chose pour les espaces de nature. Il y a effectivement la question que vous évoquez, on ne va pas la résoudre aujourd'hui, de la valeur consentie pour payer la prestation technique, mais aussi pour payer la médiation, l'animation. Olivier, vous avez un cheval de bataille, c'est de dire, souvent de manière assez provocante, les espaces verts, c'est un sous-lot du VRD, les voiries et réseaux divers, qui est souvent le lot le plus englobant dans les chantiers. Comment vous réagissez dans cette valeur et la, le consentement que la société devrait avoir à payer pour ses services ?
C'est pas facile, mais je pense que par exemple, en créant ce label ou ces labels biodiversité, il y en a un qui va sortir à l'échelle des quartiers, il y en a un qui va sortir...
Biodiversity
Ready, et un c'est à l'échelle des bâtiments d'usage, Biodiversity Life. C'est bien chercher un outil qui révèle cette valeur. Les promoteurs en sont assez intéressés par ce label. Ils veulent souvent chercher, notre président disait que c'est un autocollant qu'on veut coller sur le projet. Nous, derrière, il y a du fond, donc il y a la création de cette valeur. Enfin, non, j'ai pas de réponse très claire à la question. Je ne sais pas si d'autres, Olivia...
L'outil comme Biodiversity Life, qui vise à évaluer la manière dont sont mis en place les projets dans la phase exploitation et dans la phase vie du bâtiment et son proche environnement, en qualifiant aussi et en mettant en œuvre un certain nombre d'éléments d'animation, c'est pour vous une manière de se prémunir d'une négligence?
Oui, puis c'est une manière de mettre en avant l'écologue, on en a beaucoup parlé, mais le paysagiste, on ne fait pas de biodiversité sans paysagiste concepteur, on a beaucoup parlé du jardinier. Donc c'est une manière de créer cette valeur et de, je vais le dire, tu l'as un peu dit, mais de sortir ce lot espace vert ou ces charges d'espace vert du misérabilisme dans lequel nos systèmes, peut-être privés notamment, parce que les villes ont des services d'espace vert, les ont un peu... Il faut sortir de ça par rapport à tout ce qu'on a dit. Et c'est vrai que le label, c'est peut-être qu'un outil, mais c'est un outil qui commence à faire ça. Et derrière, il y a toutes les professions qui peuvent en bénéficier, qui peuvent contribuer à créer ce changement et cette valeur.
Je vais laisser Olivia répondre et puis ensuite un petit mot très court de chacun, une petite carte blanche avant de conclure.
Je crois qu'on a ce même combat de rendre quelque chose qui était un impensé hein, quand même de la promotion immobilière, s'il n'y a pas de sensibilité du collaborateur, pas de demande du client, trop souvent un impensé, et de le faire émerger, de le mettre à l'agenda. Créer un concept de jardin, ça répond aussi à ça. Lui donner une patine, lui donner des principes de conception, lui donner un nom, lui donner une résonance, une image, venir ici le présenter, mais c'est ça en fait qu'on fait. C'est-à-dire qu'on prend le contre-pied de quelque chose qui peut être trop souvent impensé et on en fait vraiment un concept qu'on intègre à nos offres. Le concept de jardin bouygues immobilier va être intégré à la nouvelle offre de logement cœur de vie qu'on déploie sur toutes nos opérations en conception en 2022. C'est une manière, ça, comme le label, de faire émerger le sujet et de lui donner vie, de lui donner une forme et du coup de le vendre, d'en parler, de l'incarner aussi à travers nos projets. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut prendre aussi le contre-pied de quelque chose qui trop souvent est impensé dans nos filières.
Gilles Galopin, vous avez notamment créé une formation entre Agro Paris Tech et l'Institut Agro qui s'appelle Ingénierie des espaces végétalisés urbains, qui englobe tous les sujets de nature en ville chez les agronomes qui ne sont pas tous financiers, confère la remise des diplômes récente, et aussi les sujets d'agriculture urbaine. Quel serait votre mot de conclusion sur les compétences ?
Moi, je vais dire deux choses. Effectivement, on a créé récemment un master qui était centré sur une thématique de la ville, hein, ce qui est quand même différent, parce qu'on n'est pas sur une approche disciplinaire, donc c'est vraiment une approche un peu différente. Et notre objectif, c'était que les ingénieurs qui sortaient de cette formation, en fait, puissent dialoguer avec l'ensemble des acteurs, pour créer justement cette communauté d'acteurs et ce lien entre ces différents acteurs. Ce que je dois dire aussi, c'est qu'actuellement, il y a des réflexions au niveau de l'enseignement supérieur français, où il y a des ponts qui se font concrètement, entre le secteur, les paysagistes, les architectes, les urbanistes, les designers. Donc il y a des ponts entre les écoles qui sont en train de se construire. Et ça, je trouve qu'on va plutôt dans le bon sens. Mais le mot de la fin, que j'ai une petite idée comme ça, que j'ai envie de dire.
Alors, attention.
C'est que, en fait, moi j'ai plaisir de travailler avec le CIBI parce que du coup, ça m'a permis de découvrir aussi les acteurs de l'immobilier que je ne connaissais pas. Mais souvent, je suis amené à dire que il faut qu'on aille plus loin. C'est-à-dire que, juste une image, quand on livre un bâtiment de l'immobilier, il est magnifique. Il correspond, on a fait une étude, il correspond, son usage correspond à ce qu'en entend les utilisateurs, donc il est super, il est au maximum de sa valeur. Avec le temps, peut-être qu'il va se dégrader. Les espaces végétalisés que vous mettez autour, quand vous les créez, ils sont au minimum de leur valeur, parce qu'on vient de les créer. Et eux, ils vont grandir. C'est-à-dire que si on les cultive, leur valeur va augmenter. Et donc, si on conjugue les deux, c'est-à-dire que dès le départ du projet, il faut s'intéresser aux deux. Mais si on conjugue les deux, en fait, sur une période beaucoup plus longue, tout le monde va être gagnant-gagnant parce qu'on va avoir une valeur conjointe qui va augmenter, enfin, être conservé, voire augmenter, et qui, de toute façon, au bout du compte, ça, pour le bénéfice de l'usager.
Marion Valeur.
Ce que je voulais dire plus globalement, c'est qu'on on est dans un moment où on a aussi besoin de commun, je crois, et que, et voilà, en ville aussi, mais pas qu'en ville, on a... Et d'autant plus après le Covid, on se croise, on a peu d'occasion de, voilà, de, d'avoir des espaces de mixité, des projets communs avec des gens qui ne sont pas nos proches immédiats. Et je crois beaucoup aussi à la biodiversité pour cela en ville. Je crois que c'est absolument essentiel et que ça, ça permet de recréer de l'apaisement, ça permet de créer voilà, des projets de quartier, des projets d'immeubles. Et je pense que ce lien social aussi très simple qui passe par finalement le jardinage, qui est quelque chose de, voilà, d'historique et d'assez simple, je pense qu'on en a énormément besoin.
On a besoin de commun, ce sera le mot de la fin. Je salue toutes celles et ceux qui font la biodiversité urbaine et cette grande filière du vivant et la ville. Citons quelques prénoms qui sont dans la salle. Valérie, Stéphanie, Cerise, Emmanuel, Jérémy et j'en passe. Voilà. Ce sont vous toutes et vous tous qui le faites. Merci Marion Valeur, conseillère de la maire de Paris, en charge de l'architecture, des espaces verts, des affaires funéraires. Et j'en oublie, et vous êtes également philosophe de l'environnement. Lisez Artefacts naturels, c'est un livre de chevet un peu costaud, mais qui est utile. Olivier Lemoine, vous êtes écologue, chef du service biodiversité d'Élan, cofondateur du CIBI, et vous en êtes le directeur scientifique et technique. Olivia Conil Lacoste, directrice RSE, et développement durable de Bouygues Immobilier, également administratrice du CIBI, et Gilles Galopin, avec lequel nous aimons débattre et qui respecte toujours les cadres qui lui sont imposés. Nous ne le présentons plus, enseignant-chercheur en biologie végétale à l'Institut Agro-Rennes-Angers. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conférence et cette émission, disponible à la réécoute, mais aussi en replay vidéo sur radioterritoria.fr et radio.imo. Elle est organisée sous l'égide du Conseil international biodiversité et immobilier Le Vivant et la Ville, CIBI pour les intimes, créateur des labels Biodiversity. Nous étions en direct de Jardin Jardin aux Tuileries. La grande fête de la nature en ville se poursuit. Générique.
Ville.
Nature.
Végétal.
Architecture.
Quartier.
Paysage.
Biodiversité.
Culture. Le vivant et la ville s'allient à Jardin Jardin aux Tuileries.